VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du lundi 21 mars 2016. Morgane Guériec et Anne Albertson en votre compagnie. Au sommaire ce matin,
week-end électoral en Afrique, présidentiel au Bénin avant même que les résultats ne soient annoncés, Lionel Zinsou reconnaît la victoire de Patrice Talon.
Présidentiel au Congo-Brazzaville, la police a dispersé à coups de grenades lacrymogènes près de 200 partisans de l'opposition autour d'un bureau de vote.
En revanche, au Niger, le second tour de l'élection présidentielle s'est déroulé sans incident majeur. Faible taux de participation, réaction de l'opposition.
C'est un vote sanction. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons indiqué que ces élections, nous ne pouvons pas accepter les résultats.
Et au Sénégal aussi, faible participation au référendum.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Second tour de la présidentielle au Bénin, le Premier ministre sortant, Lionel Zinsou, a reconnu la victoire de l'homme d'affaires Patrice Talon. Les résultats provisoires font apparaître une victoire très nette de Patrice Talon, a déclaré M. Zinsou par téléphone à l'AFP. Il affirme d'ailleurs avoir contacté son adversaire pour le féliciter. Les résultats du vote d'hier n'ont pourtant pas encore été annoncés. Retour sur le vote d'hier avec Ginette Fleur à Dundee. Notre correspondante sur place.
C'est dans la paix et la quiétude que les Béninois sont allés dimanche aux urnes. Un faible taux de participation tout de même. Les populations ne sont pas massivement sorties. Le dimanche des rameaux aidant, elles étaient soit au culte, soit vacant à d'autres occupations. Crayeux publics et autres ont fait le tour des villes, les appelant à participer à l'écriture de cette nouvelle page de l'ère démocratique. Les observateurs, qu'ils soient de la CEDEAO, des organisations de la société civile du Bénin ou de l'Union africaine, ont félicité la maturité du peuple béninois.
Le souhait de la CEDEAO, comme partout ailleurs dans ses États membres, est que nous assistions à des élections paisibles, transparentes et crédibles pour le renforcement de la démocratie, de la paix sociale, non seulement au Bénin, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest.
De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Présidentielle hier au Congo-Brazzaville, la police a dispersé à coups de grenades lacrymogènes près de 200 personnes rassemblées autour d'un bureau de vote dans le sud de la capitale. D'après l'AFP, ces jeunes partisans du candidat d'opposition Guy Brice Parfait-Colela souhaitaient assister au dépouillement des urnes. De même source, on apprend que des policiers ont frappé à coups de matraque un petit groupe de personnes et ont embarqué une personne à bord d'un de leurs véhicules.
Évoquant des raisons de sécurité et de sûreté nationale, les autorités ont par ailleurs décidé de couper les télécommunications, téléphone, internet, SMS, pour 48 heures, dimanche et aujourd'hui. Elles disent vouloir empêcher l'opposition de publier des résultats illégaux. L'élection présidentielle opposait, on rappelle, 8 candidats au chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir.
Au Niger, l'heure est à la compilation des résultats du second tour de la présidentielle. Le scrutin d'hier s'est déroulé sans incident majeur, mais la participation semblait faible à Niamey. Il faut dire que l'opposition, qui avait qualifié ce second tour de non-événement, avait appelé ses militants à rester chez eux en guise de boycott. On fait le point avec notre envoyé spécial sur place, Bagassi Koura.
Contrairement au premier tour, la plupart des bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Contrairement aussi au premier tour, il n'y a pas eu de grandes affluences dans les bureaux de vote dans la capitale Niamey. Le pouvoir se félicite du calme et du bon déroulement du scrutin. De son côté, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, assure qu'il n'y a pas eu d'incident majeur et compte publier les résultats mardi ou mercredi. Un leader de l'opposition rencontré par VOA Afrique affirmait hier soir que le mot d'ordre de boycott a été un succès. L'opposition, dont le candidat Ama Amadou a été évacué en France pour des raisons médicales, après 4 mois de prison pour une affaire présumée de trafic de bébés, avait demandé à ses militants de rester chez eux. Personne ici ne doute que Mahamadou Issoufou, qui avait obtenu plus de 48% au premier tour contre 17% à son rival Ama Amadou, va remporter ce scrutin. Le principal enjeu reste désormais le taux de participation qui, pour beaucoup, ne devrait pas atteindre les 66% du premier tour. Bagassi Koura, Niamey pour VOA Afrique.
Écoutons maintenant Amadou Boubacar Cissé, un des responsables de la COPA 2016, l'opposition nigérienne, qui a appelé au boycott du scrutin.
Les bureaux de vote étaient pratiquement déserts. Donc ça, aujourd'hui, on peut très clairement indiquer que c'est un vote sanction. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons indiqué que ces élections, nous ne pouvons pas accepter les résultats, ni les institutions issues de ce scrutin.
Et puis, référendum au Sénégal. Les électeurs devaient se prononcer hier sur des réformes constitutionnelles, dont la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Les premières tendances se dessinent et il semblerait que les Sénégalais se soient abstenus en masse. Sur place, Sortna Natambay nous en dit plus.
Vers les coups de 21h, le taux de participation sur l'étendue du territoire était de près de 45%. Le oui et le non étaient au coude à coude. C'est le cas dans certains bureaux de vote un peu partout dans le pays. Toutefois, dans le centre où a voté le chef de l'État, Macky Sall, le oui caracole largement en tête. Dans son bureau de vote, il y a eu 1821 inscrits avec 603 votants, 328 bulletins en faveur du oui et 271 bulletins en faveur du non. Dans le département de Mbacké, où se trouve la ville religieuse de Touba, c'est le nom qui l'emporte. Des responsables de l'opposition ont réussi à convaincre des citoyens dans leur fief. Au cours de la journée de vote, un incident majeur a secoué les médias, mais aussi la classe politique. La chaîne de télévision privée Walfajri a été menacée de fermeture par les autorités, selon son président directeur général. On lui reprocherait de faire une campagne en faveur du non. Sidi Lamine Niass se défend.
Comme on le fait dans toutes les télévisions, commenter, prendre des correspondants, on n'a rien fait contrairement à ce qui se fait dans les autres organes.
Le directeur de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes cité dans cette affaire et parle d'un simple échange de propos sur le respect du code électoral. Le faible taux de participation a été noté dans plusieurs localités. Ce lundi, les premiers résultats devraient être connus. Sornan Atambay, Dakar, VOA Afrique.
Législative au Cap-Vert, le principal parti d'opposition a remporté la majorité absolue aux élections d'hier. Selon les résultats, sur plus de 90% des suffrages, le Mouvement pour la démocratie a gagné avec plus de 53% des voix devant le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert au pouvoir depuis 2001 et qui a reconnu sa défaite dans la soirée. C'est ce que rapporte l'AFP.
Jour J pour Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président congolais et ancien chef rebelle du nord de la République démocratique du Congo. Il saura ce lundi si les juges de la CPI l'estiment responsable des meurtres et viols commis par sa milice en Centrafrique en 2002-2003. C'est la première affaire à la Cour pénale internationale qui se concentre sur l'utilisation de viols et violences sexuelles en tant qu'armes de guerre et le premier procès où un chef militaire est tenu responsable des atrocités commises par ses hommes, même s'il ne les a pas ordonnées. Accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Jean-Pierre Bemba a plaidé non coupable.
Quelques 2000 juifs israéliens d'origine éthiopienne ont manifesté hier à Jérusalem pour dénoncer l'annulation par le gouvernement d'un plan autorisant leurs proches en Éthiopie à les rejoindre, une mesure qu'ils jugent raciste et discriminatoire.
Enfin, visite historique du président Barack Obama à Cuba. Arrivé hier à La Havane, le président américain retrouve Raúl Castro aujourd'hui. La visite vise à donner une nouvelle impulsion au dégel engagé fin 2014 entre les États-Unis et Cuba. Raúl Castro devrait plaider pour la suppression de l'embargo qui pénalise son pays depuis 1962.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue kényan Uhuru Kenyatta prendront part au 4e forum Africa CEO consacré aux enjeux de développement du secteur privé africain ce lundi et mardi à Abidjan, rapporte Financial Afrique. Ce forum réunit chaque année des centaines de chefs d'entreprise, banquiers, financiers et décideurs publics du continent. Le produit intérieur brut en volume du Sénégal a progressé de 9,9% au quatrième trimestre 2015 par rapport à la période correspondante de 2014, indique l'APA, citant l'Agence nationale de statistiques et de la démographie. Au troisième trimestre 2015, ce PIB avait progressé de 5,4%. Par ailleurs, les taxes nettes sur les produits se sont relevées de 10,3% par rapport au quatrième trimestre 2014. L'ANSD souligne qu'en 2015, la croissance économique en termes réels s'est établie à 6,5%. La Banque européenne d'investissement et la Côte d'Ivoire ont signé un accord de financement d'un montant de plus de 76 milliards de francs CFA pour le projet Energos dans le domaine de l'énergie. Il permettra la réhabilitation et l'extension des réseaux à Boaké, San Pedro et Abidjan, ainsi que la création d'un nouveau centre de dispatching national à Yamoussoukro. Ce projet bénéficie également du soutien de la Banque ouest-africaine de développement.
La Minute Éco. Merci Nathalie. Place au sport avec Élisée Ongpatine. D'abord, de l'athlétisme et un Burundais sur le podium des championnats du monde en salle. Antoine Gakeme a pris la deuxième place sur le 800 mètres.
Course chamboulée par le départ très rapide du futur vainqueur, le supplément américain Boris Berian. Et derrière lui, une autre surprise s'est dessinée. Antoine Gakeme a battu son record personnel en salle pour s'offrir une inattendue deuxième place. D'autres médailles africaines dans le 1500 mètres féminin, les Éthiopiennes Dewit Seayoum et Godaf Tisgay prennent les deuxième et troisième places dans une finale remportée par la Hollandaise d'origine éthiopienne Sifan Hassan. Déception en revanche pour la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Tallo, septième et dernière de la finale du 60 mètres.
On passe au football et pas de surprise à l'occasion des 16e de finale, retour de la Ligue des Champions.
Et déjà le samedi, 8 clubs se sont qualifiés. Ils étaient tous en ballotage favorable après les matchs allés. Ainsi, les Égyptiens du Zamalek tombent des Camerounais de l'Union de Douala 2-0, 1-0 à l'aller, tout comme à l'aller du Caire face aux Angolais de Libo. Qualification également de l'Étoile du Sahel, du Wida de Casablanca, d'Almeriek du Soudan, d'Elimba du Nigeria, des Tanzaniens de Young Africans et des Mamelodi Sundowns qui ont écarté les Léopards de Dolisi.
Qualification également des tenants du titre, le tout-puissant Mazembe.
Oui, après leur nul 2-2 en Éthiopie face à Saint-Georges, les Corbeaux ont assuré le service minimum à domicile 1-0 grâce à Jonathan Bolingui sur penalty. Ça passe également pour l'autre club congolais, l'ASV Club tombeur de Ferroviaro de Maputo. Qualification difficile de la SEC d'Abidjan et du Stade malien. Les Ivoiriens, après leur victoire 1-0 à Johannesburg, se sont contentés du nul 0-0 à domicile pour passer. Par contre, le Stade malien battu à Garoua 1-0 par le Coton Sport a déjà fait l'essentiel à l'aller 2-0. Les Algériens de Mobéjaïa et de l'entente de Sétif sont également à huitième de finale. Et puis fin de l'aventure pour le Oroya. Malgré sa victoire 2-0, le champion de Guinée n'a pas pu combler son retard face aux Zambiens de Zesco, vainqueur à l'aller 4-1.
16e de finale, retour également en Coupe de la Confédération.
Et ça passe pour les Algériens de Constantine et du Mouloudia d'Oran. Même cas pour l'Espérance de Tunis, le Stade Gabizien, les Angolais de Sakra Esperanza, le Fus de Rabat et le V-Club Mokanda. Les Congolais de Dobosco ont été éliminés par les Égyptiens de Mokassa, tout comme les Ivoiriens d'Africa Sport dominés au Caire par ENPPI 4-1. Et puis notons les qualifications des Gabonais de CF Mounana et des Ougandais de CS Villa.
Le football féminin maintenant. Les Sénégalaises ont passé le premier tour des éliminatoires de la CAN.
Elles ont perdu leur match retour 1-0 face aux Guinéennes, mais les Sénégalaises ont été meilleures au tir au but 4-2. Au prochain tour, elles vont affronter le Nigeria. Pour le reste, le Mali passe aussi ce premier tour aux dépens du Maroc. Qualification encore de la Tunisie face au Burkina Faso.
Et dans l'actualité sportive africaine encore, le cyclisme, le Tour du Cameroun a rendu son verdict.
Avec le sacre du Marocain Mohamed Amine, il s'impose avec 54 secondes d'avance sur le Français Alexis Calier. A noter que c'est un Camerounais, Atus Tela, qui a remporté la dernière étape entre Bafia et Yaoundé, longue de 120 km. Et puis du basketball pour terminer avec vous, les résultats de la nuit en NBA.
Portland-Dallas 120-132, Orlando-Toronto 100-105, Boston-Celtics-Philadelphia 102-105, Los Angeles Clippers-New Orleans 105-109, Utah Jazz Milwaukee Bucks 94-85 et enfin Sacramento New York Knicks 88-80.
Le Monde aujourd'hui.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Tchad. La présidentielle est prévue le 10 avril et la campagne présidentielle a débuté hier conformément au calendrier électoral élaboré par la Commission électorale nationale indépendante. Le président sortant, Idriss Déby Itno, a donc donné le coup d'envoi à l'occasion d'un grand meeting sur la place de la Nation de N'Djamena. La correspondance d'André Kodmajingar.
Jamais une campagne électorale au Tchad n'a été marquée par des revendications sociales comme celle qui vient d'être lancée ce dimanche 20 mars par le président sortant Idriss Déby Itno. Pendant qu'une plateforme des organisations de la société civile annonce plusieurs actions de désobéissance civique durant cette période pour exiger le retrait de la candidature de Déby de la course à la magistrature suprême, les ex-travailleurs de TCC Tchad Cameroun Constructor et les maîtres communautaires quant à eux entendent multiplier les sittings pour revendiquer respectivement les reliquats de 50% des heures supplémentaires obtenues de l'État tchadien par condamnation et les arriérés de 20 mois de subsides. De l'autre côté, les jeunes diplômés sans emploi exigent eux aussi leur intégration à la fonction publique à travers la rue. Mais déjà à la veille du lancement officiel de cette campagne, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration met en garde ces organisations qui s'hasarderaient à organiser une manifestation autre que pour soutenir les candidats en lice. Ahmad Mahamad Bachir.
Ne sont autorisés pendant cette période de campagne électorale que les manifestations de soutien aux différents candidats. Toute autre manifestation publique qui sort du cadre de la campagne électorale est purement et simplement interdite. Les autorités administratives ainsi que les responsables de sécurité sur l'ensemble du territoire national doivent faire observer toutes les mesures prises pour assurer la sécurité des personnes, leurs biens et garantir pour ce qui les concerne le bon déroulement de la campagne électorale.
C'est dans cette situation de crise sociale que le président candidat à sa propre succession, Idriss Déby Itno, se montre un homme de la situation et demande à ses militants de barrer la route aux autres candidats le 10 avril prochain.
Les acquis les plus importants, c'est la paix et la stabilité. Tout ce que nous avions fait dans ce pays-là, ce sont vos acquis à vous. Ce n'est pas à eux. Quand ils partaient crier à Paris, ou bien ils viennent ici avec des mots d'ordre d'extérieur pour vendre la souveraineté du Tchad, ni vendable, ni achetable. Et je leur barrerai la route. Je suis jaloux de la souveraineté du Tchad. Et je n'ai aucune officine derrière moi, ni agence étrangère derrière moi. Tout le monde sait ici que Déby n'a pas de compte à l'étranger. Que Déby ne détourne pas l'argent public. Mon habit est blanc. Je suis blanc comme cet habit.
André Kodmajingar dans la zone septentrionale du Tchad pour la Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, deux semaines après le gigantesque incendie qui a ravagé une bonne partie du marché central de Bangui, les commerçants tentent de se réorganiser. En l'absence de l'appui des autorités, ces hommes et femmes se lancent dans la construction de nouveaux kiosques. Reportage de Freeman Sipila.
Dans la nuit du 4 au 5 mars, un incendie dont l'origine reste inconnue décime l'aile droite du marché central de Bangui. Ce jour-là, plusieurs dizaines de commerces et de fortes sommes d'argent sont partis en fumée. Le matin, c'est la consternation. Des commerçants appellent le gouvernement à l'aide.
Tout est à terre. Tous les commerçants du marché central sont en train de pleurer. On demande une aide urgente à notre gouvernement centrafricain. Les centrafricains ont perdu des millions.
Deux semaines après cet appel, aucune réponse favorable n'est enregistrée. Le maire de Bangui, après une réunion avec quelques représentants des victimes de l'incendie, n'a rien promis en dehors des démarches auprès des partenaires. Aujourd'hui, les commerçants décident eux-mêmes de reconstruire leurs kiosques et magasins. Bienvenue Willy Bouna, un des délégués.
Oui, ça c'est l'effort de chaque commerçant. C'est depuis l'incendie, on n'a eu aucun aide du gouvernement, d'une association, d'une autre part. Je sais que les commerçants des commerçants, ils ne peuvent pas laisser bras croisés pour attendre jusqu'à ce que le gouvernement fait quelque chose. Ça, c'est une initiative personnelle. Les gens contribuaient pour enlever les décombres et puis c'est à eux-mêmes de cotiser pour faire reconstruire leur boutique. On a combien de ministères à Bangui ? Mais depuis ce temps que cet incendie s'est produit, il n'y a aucun membre du gouvernement nous a rendu visite. Ça, c'est le mal que je déplore.
Pendant que les travaux se poursuivent sous la pluie battante de ce dimanche 20 mars, certaines vendeuses étalent leurs marchandises à même le sol aux abords de la grande route.
Par rapport à l'incendie qui s'est produit ici au marché, c'est pourquoi on s'est installé ici dehors pour vendre. Si on reste à l'intérieur, c'est l'insécurité pour nous.
Juste en face du marché central, les décombres des marchandises brûlées sont entassés au milieu de la chaussée, empêchant la circulation des engins et des piétons. Ce passant s'en plaint.
Vous savez bien que le marché central, c'est le marché populaire, là où les étrangers ainsi que les centrafricains viennent se procurer leurs besoins ici au centre-ville. Donc il fallait nettoyer au fur et à mesure pour laisser le centre-ville propre afin que ça peut donner une bonne image. Mais ce n'est pas ça la position et fin de fin, ça devient aussi maintenant une place pour les délinquants pour pisser n'importe comment et ça donne une mauvaise odeur dans la ville.
Entre 2014 et 2016, le marché central de Bangui a enregistré 5 cas d'incendie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Nous mettons maintenant le cap sur la République démocratique du Congo. À Goma, plus de 10 000 jeunes de l'Église catholique se sont réunis durant 3 jours pour prier pour la paix. Ces jeunes venaient de 2 provinces du Kivu et du Rwanda. Le diocèse de Goma, qui organisait cette 8e édition de la rencontre de la jeunesse, pense ainsi aider à la reconstruction d'une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs. De Goma, la correspondance de Charlie Kazereka.
Les mots clés durant les 3 jours de la rencontre, c'était la paix. Bizimana Kazimire est venu du Rwanda. Avant son arrivée en RDC, il avait des préjugés sur les jeunes congolais. Après cette rencontre, il croit avoir déjà une idée claire avant son retour au Rwanda.
En tout cas, venir ici au Congo, on avait peur avant de traverser la frontière. Mais arrivé à Goma, on voit la joie, on vit la fraternité. En tout cas, c'est bon. Un message pour les autorités, c'est que les autorités facilitent le développement, que la jeunesse vive dans leur pays, étant heureux là où leur bien créateur les a prévus.
Conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans leur pays respectif, les jeunes de la sous-région croient s'être déjà préparés pour tous les défis socio-économiques qu'est politique. Guy Kibira est le président de la jeunesse au Nord Kivu, en RDC.
Ici, je dois préciser que nous sommes avec les jeunes qui viennent des confessions religieuses. Il s'agit d'une approche des jeunes, les jeunes du Congo et du Rwanda et même du Burundi. Nous avons déjà, par des rencontres antérieures, mis en place un code de bonne conduite, surtout dans les périodes électorales. Et nous nous sommes abstenus de toutes sortes de manipulations, d'où qu'elles viendraient et de qui que cela proviendrait. Et de surtout nous rappeler que Dieu est au-dessus de tout.
Les choix portés sur le diocèse de Goma pour encadrer cette grande prière des jeunes n'est pas un hasard, nous fait savoir Théophile Kaboyi, le numéro 1 de l'Église catholique à Goma.
Goma, dans l'histoire des guerres, n'est pas n'importe quoi. Goma a coupé le souffle de la République pendant plusieurs années. Et donc, il est temps que nous prenions conscience du passé et que nous apprenions à construire une société beaucoup plus sereine, beaucoup plus pacifique, en essayant de chercher les causes de cette instabilité qui commence toujours par Goma.
Pour l'occasion, le gouverneur promet d'ouvrir un dialogue et d'écouter désormais les doléances de la jeunesse et ensemble y apporter des solutions. Le gouverneur Julien Paluku.
Aujourd'hui, nous lancions désormais un dialogue gouvernement provincial et jeunes du Nord Kivu et de façon permanente. Le dernier message que j'ai donné aux jeunes, c'est de dire n'attendez pas seulement qu'on vous donne de l'emploi, mais saisissez l'occasion qui vous est offerte. comme dans l'armée, comme dans la police, pour nous permettre de renouveler l'armée, de renouveler la police par des jeunes.
Avec des tensions politiques qui se sont toujours observées entre différents pays de la sous-région des Grands Lacs, les jeunes pensent que la prière étant ses fêtes durant ces trois jours, Dieu ne va pas rester insensible et va exaucer leurs prières. Depuis Goma, Charlie Kasereka pour VOA Afrique.
Partons maintenant au Mali. Comment faciliter le retour des réfugiés et déplacés, la sécurisation des personnes et de leurs biens? Telles sont entre autres les recommandations de la rencontre intracommunautaire de Gargando dans la région de Tombouctou. Une initiative de la tribu Kel Antessar. Les participants à cette rencontre ont fait une restitution à Bamako. Le point avec Kassim Traoré.
Gargando ou le Nombril, petite localité située dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou, a accueilli plus de 300 personnes pour trois jours de discussion. Les groupes armés, tout comme l'armée malienne, ont assuré la sécurité de cette rencontre. Abdul Majib Ag Mohamed Dinasser, chef de la tribu Kel Antessar.
C'est depuis 2012, le drapeau du Mali n'a pas flotté à Gargando. Pour la première fois, le 10, 11, 12 mars 2016, que le drapeau du Mali a flotté à Gargando en chantant l'hymne national avec le groupe rebelle, l'armée malienne, en présence des élus locaux et nationaux de l'administration malienne. Gargando a donné l'exemple aux autres communautés. Et chaque zone malienne prend l'exemple de Gargando. Parce qu'aujourd'hui, l'intégrité du pays est reconnue par tous les mouvements. Il n'y a plus question de Arzawa, c'est l'État malien.
Très rare dans les rencontres de ce genre, le maire de Goundam a passé les trois jours du forum à Gargando. Oumoussal Sek, maire de la commune urbaine de Goundam.
La rencontre de Gargando n'est pas du folklore. Parce qu'il y en a beaucoup qui se tiennent. C'est pour paraître à la télé, c'est pour dire mais il n'y a pas de résultat. On a fait Gargando, on sent les résultats sur le terrain parce que les vrais acteurs étaient là. C'est eux qui doivent s'engager. Donc quand vous venez parler à la place des acteurs, eh bien, attendez-vous à ce qu'il n'y ait pas de résultat. Je ne vais pas à toutes les rencontres parce que je ne crois pas à toutes les rencontres. Quand je sens que c'est du folklore, c'est pour dépenser de l'argent ou juste pour parler, paraître à la télé, ben, je préfère faire autre chose.
Parmi les vrais acteurs qui ont répondu à l'appel de la tribu Kel Antessar à Gargando, il y a certains réfugiés qui ont pris la parole.
Monsieur Mohamed El Mokhtar Agenaderfe, membre de la coordination des camps de réfugiés de Mbara en Mauritanie. Les Nations Unies ou les différents partenaires financiers des Nations Unies ne donnent pas assez d'aide à cause du fait que le processus de paix a été signé et qu'il y a d'autres problèmes dans d'autres pays. Donc ça nous a un peu affectés et que nous, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas ce qu'il faut aussi pour rentrer au bercail.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous manque pour revenir?
D'abord, il y a les problèmes d'ordre sécuritaire et économique. L'État malien est décidé à faire la paix, mais je pense que l'État malien aussi n'a pas des moyens.
Ceux qui se battent pour la paix, qui ont toujours été du côté du gouvernement malien, se sentent marginalisés au profit de ceux qui ont pris les armes contre le Mali. Abdul Majib Ag Mohamed Dinasser, chef de la tribu Kel Antessar.
Je demande aux autorités maliennes d'encourager les acteurs de la paix. Les acteurs de la paix ont des ennemis. Ceux qui cherchent la paix, ceux qui veulent le pays, il faut qu'on les encourage. Avant que ça ne soit trop tard pour le pays. Parce que si nous, ils sont restés au Mali. Nous avons lutté pour notre pays. Si on continue à nous humilier, il y aura une rébellion qui va bouleverser tout le Mali. Ce n'est pas seulement le Nord, c'est tout le Mali. Ça, c'est un premier avertissement que je donne au gouvernement malien que ceux qui œuvrent pour la paix, il faut qu'ils soient encouragés avant que ça ne soit trop tard.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think.
My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Anne Albertson. Présentation, Anne Albertson et Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.